Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Voilà, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un homme attaché à Dieu. Le juste vivra par la foi. Nous trouvons cette référence trois fois dans la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un homme attaché à Dieu, un homme qui est prêt à renoncer à tout. Certains épisodes de nos vies nous paraissent vraiment injustes et nous devons supporter les conséquences. Le concours raté, par exemple, parce que vous avez raté le train ou parce que le train s'est arrêté au milieu des rails et vous arrivez trop tard. Un licenciement abusif, par exemple. Une maladie qui vous frappe alors que vous êtes bien suivi par des spécialistes. Des pépins qui s'enchaînent. Oui, certains événements de notre vie nous paraissent injustes. Et malgré cela, nous devons supporter les conséquences. Et nous cherchons des explications à tout cela sans vraiment comprendre pourquoi ça nous est arrivé, et cela nous laisse perplexes. Eh bien, nous voyons ce matin un homme de Dieu, attaché à Dieu, qui a vu sa vie bouleversée en quelques instants, du jour au lendemain, sans qu'il ait pu vraiment comprendre la raison. Son expérience est riche d'enseignements pour nous tous ce matin, et que la parole de Dieu nous instruise, que Dieu vous parle dans vos besoins personnels au travers du livre de Job. Et nous prenons ce matin le livre de Job au chapitre 1. Job, chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché ?» et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient, les ânesses paissaient à côté d'eux. Des sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens, formés en trois bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'est un discours qui nous secoue toujours, de voir cette attitude de Job. Eh bien, que le Seigneur nous instruise encore une fois. Nous voyons des versets 1 à 5, le portrait de Job. Les 5 premiers versets nous brossent le portrait d'un homme. Il nous est dit que c'était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et le verset 8 reprend le même verdict. Job est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Cela ne veut pas dire que Job est un homme parfait, qui n'était pas sans péché. Lui-même va le reconnaître dans ce livre, Job chapitre 7, verset 21, que je vous lis. « Que ne pardonnes-tu mon péché ? Et que n'oublies-tu mon iniquité ?» Job était conscient qu'il n'était pas parfait. Et donc, au chapitre 9, aussi au verset 2, Job va dire « Comment l'homme serait-il juste devant Dieu ?» Job n'était pas sans péché, mais il avait placé sa confiance en Dieu pour sa rédemption. Il avait placé sa confiance en Dieu pour son salut. Et c'est dans Job, au chapitre 19, verset 27, que nous lisons Job qui dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Job avait placé sa foi en Dieu seul. Il avait l'assurance qu'il serait déclaré juste au jour du jugement. Et en quelque sorte, Job symbolise le croyant du Nouveau Testament, le croyant de la Nouvelle Alliance. Déjà, à l'Ancien Testament, les hommes plaçaient leur confiance en Dieu seul pour leur rédemption. Et Job en est un cas. Alors, Job, en croyant fidèle, marchait conformément à ce qu'il savait de Dieu. Il savait que Dieu était un Dieu saint et conformait sa vie à ce qu'il savait de Dieu. On le voit, Job, agréable dans sa vie personnelle. On le voit aussi agréable dans ses relations avec les autres. On dit que Job était un homme intègre et droit. On n'a pas appris ça dans les nuages. C'est que sa vie avec les autres était marquée par l'intégrité. Il ne trompait pas les gens. Il était sérieux en affaires, il était honnête en affaires. Et il jouissait d'une bonne réputation. Le verset 3 nous dit que cet homme était le plus éminent de tous les fils d'Orient. Oui, Job était éminent à bien des égards. Job était donc intègre dans sa vie personnelle et dans ses relations avec les autres. Et Job était aussi agréable dans sa vie familiale. Il tenait à ce que ses enfants connaissent à Dieu, gardent de bonnes relations avec Dieu, restent le plus près possible de Dieu. Et au verset 5, après le festin, les enfants festoyaient, non pas pour faire la fête comme on voit aujourd'hui, mais c'était dans une bonne ambiance familiale. Les repas, hein, nous les liens familiaux, comme nous avons nos repas fraternels aussi, qui resserrent les liens, eh bien, nous a dit au verset 5, « Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. » Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. » Job était un homme intègre et droit, mais ce n'était pas occasionnellement, c'était habituellement, c'était la dominante de la vie de Job. Et on voit aussi que Job est béni affectivement et matériellement. C'est les premiers versets qui nous disent ça. Il est le père d'une famille nombreuse, 7 fils et 3 filles, au verset 2. Il nous est dit ensuite qu'il possédait beaucoup de biens matériels. Il avait 7000 brebis, 3000 chameaux et certainement il devait louer ses chameaux à ceux qui passaient près de chez lui. Il avait 500 paires de bœufs. Les bœufs étaient attelés ensemble pour labourer le terrain et ça présageait de bonnes récoltes. Il nous est dit aussi qu'il avait 500 ânesses. Et vous savez qu'à à cette époque, le lait d'ânesse, c'est un mets précieux. Et donc, Job faisait de bonnes affaires avec son lait d'ânesse et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Voilà. 10 enfants unis, joyeux, un homme qui possède beaucoup de biens matériels et un grand nombre de serviteurs. L'Ancien Testament considère la bénédiction matérielle comme une conséquence de la fidélité. On peut prendre rapidement Lévitique chapitre 26 pour voir ces choses. On voit que là, c'était d'ailleurs la dominante de l'Ancienne Alliance. Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26, verset 3. Lévitique 26, verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivez vos ennemis, ils tomberont devant vous par l'épée. Ainsi de suite, voilà la bénédiction matérielle comme une conséquence de la fidélité. Si vous obéissez, vous serez béni. Mais l'Ancien Testament aussi nous dit que la bénédiction matérielle était une grâce de Dieu. C'était aussi une faveur de Dieu. Et on peut lire Deutéronome chapitre 7. On tourne les pages, Deutéronome chapitre 7 et Deutéronome chapitre 9. Donc, Deutéronome chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. On peut lire aussi le chapitre 9 de Deutéronome, au verset 6. Deutéronome chapitre 9, on tourne juste les pages. Et au verset 6. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays que tu possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Voilà. Donc, c'est aussi une grâce de Dieu, les biens matériels. La vie du croyant fidèle doit-elle se dérouler sans nuages? Est-ce que parce qu'on est fidèle à Dieu, rien ne doit venir perturber notre vie? Celui qui a mis sa confiance en Jésus-Christ sera-t-il épargné des difficultés de la vie? Eh bien, lisons la suite du récit, versets 6 à 12, et voyons un entretien entre Satan et Dieu. Donc revenons à Job, versets 6 et 12. Eh bien, regardons de près ce que les Écritures nous dévoilent. Verset 6, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Je pense que quand Satan a quitté cet entretien avec l'Éternel, il était fier, il a dit, « Ah, je vais l'avoir celui-là. Ah, je vais l'avoir. » Donc, nous voyons tout d'abord un entretien qui a lieu dans le ciel. Job ne savait pas ce qui se disait dans le ciel. Nous ne savons pas, frères et sœurs, ce qui se dit dans le ciel. Il y a certaines choses qui se disent, qui se font, dont nous n'avons pas connaissance. Pourtant, ces choses auront une incidence dans notre vie. Nous devons le savoir. Nous voyons aussi que nous avons affaire à un ennemi invisible, mais réel. Et le monde a tendance à dire, oui, le diable avec ses cornes et tout ça, et le diable au teint rouge. Non, 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 il est invisible, il est bien réel. Et Satan, Dieu pose la question à Satan, d'où viens-tu ? Satan doit rendre à Dieu des comptes. D'où viens-tu ? Il n'est pas souverain, c'est une créature comme les autres. Et Satan répond de parcourir la terre et de m'y promener. Satan peut se déplacer rapidement entre le ciel et la terre, mais il n'est pas omniprésent comme Dieu l'est. Et le verset 11 nous montre que Satan doit demander à Dieu la permission d'éprouver Job, et Dieu va lui fixer des limites. Il n'est pas autorisé à tout faire. C'est Dieu qui tient les billes. Donc le pouvoir de Satan est limité. Il n'est pas omnipotent comme Dieu l'est. Et Satan devra à nouveau demander la permission à Dieu pour éprouver les disciples, par exemple, pour éprouver Job plus tard, et pour éprouver Pierre. Donc, Satan doit demander la permission à Dieu quand il fait des choses. On voit aussi au verset 9 que Satan met en doute les paroles de Dieu qui affirment que Job sert Dieu par intérêt. Satan affirme que Job sert Dieu par intérêt. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Mais Seigneur, enfin, tu as mis une barrière de protection autour de Job, autour de sa famille, autour de ses biens. Mais c'est normal qu'il te serve, c'est normal qu'il t'adore. Mais enlève tout ça, je suis sûr qu'il va te maudire en face. Alors que Dieu avait dit à Satan, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mais Satan met en doute ce que Dieu dit de Job. Et Satan dit, mais non, ce n'est pas vrai. Job te sert d'une manière intéressée. Et donc, Satan est convaincu que Job va renier Dieu si Dieu lui enlève tous ses biens, si Dieu lui enlève toutes les bonnes choses qu'il possède. Et Satan s'appuie sur le succès qu'il a eu depuis des années, depuis la fondation du monde, avec Adam, Ève, avec les anges aussi, avec les hommes. Il a de l'expérience. Et donc, il y a Job, il va y passer aussi. Il pense pouvoir détruire la foi de Job en le faisant souffrir, et démontrer ainsi que la foi qui sauve peut être perdue. Et que ceux qui appartiennent à Dieu peuvent retomber sous le pouvoir de Satan. Vous voyez, vous êtes enfants de Dieu, mais pas pour toujours. Je peux vous reprendre à moi. Eh bien, voilà. Le récit, versets 7 et 8, nous apprend que c'est faux. Quand on est enfant de Dieu, on l'est pour toujours. C'est parce que c'est Dieu qui dirige tous les débats. Et remarquez que Dieu ne fait pas ses plans au fur et à mesure. Satan ne lui pose pas de colle. L'Éternel sait d'avance tout ce qui va se passer dans la vie de ses croyants. Il sait quel instrument il va utiliser pour instruire, quel instrument il va utiliser pour corriger, quel instrument il va utiliser pour affermir, pour châtier, pour consoler. Dieu sait tout ça, longtemps à l'avance. Il n'y a pas de plan B avec lui. Ses plans sont connus parfaitement, c'est lui qui dirige le bal. Et remarquez que Dieu s'intéresse à la vie de Job. As-tu remarqué, mon serviteur Job ? Il sait ce que Dieu fait tous les jours. Dieu s'intéresse aussi à notre vie, frères et sœurs. Il nous porte sur son cœur. Il nous connaît par notre nom. Nous sommes ses brebis. Il nous conduit jour après jour. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous arrive parfois de ne pas comprendre le plan de Dieu. Mais rappelons-nous que c'est Dieu qui fait les plans. Que c'est lui qui est souverain. Il contrôle parfaitement toutes les expériences de notre vie et que ses plans sont toujours bons, même si nous ne comprenons pas toujours le pourquoi, le comment. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est Romains chapitre 8, verset 26 qui nous dit ça. Et on peut même dire que si Dieu essayait de nous expliquer, on ne comprendrait pas. Parce que sa sagesse dépasse la nôtre. Son intelligence dépasse la nôtre. Regardez le Christ, comment il est arrivé, il fallait qu'il naisse dans une crèche, enfin, il a été rejeté. On dirait, mais le Fils de Dieu, pourquoi il n'est pas venu directement avec un char, toutes ses armées? Non, Dieu passe par des chemins qui nous surprennent. Il ne suit pas notre logique. Voilà. Mais il contrôle le plan de A à Z. Et ces plans de Dieu réussissent. Pourquoi Dieu a-t-il permis que Satan fasse souffrir Job? Est-ce qu'il a eu peur d'échouer? Est-ce que Dieu n'a pas eu peur d'échouer? Non, Dieu a dit, vas-y, jette le livre. Dieu n'a pas eu peur d'échouer. Dieu sait que la foi qui sauve ne peut pas être détruite. L'ennemi ne peut pas renverser la foi qui sauve. Romains chapitre 8, versets 31 à 39, que je vous lis rapidement. Vous pouvez prendre avec moi. Il est bon de fixer ces références dans notre tête. Et Romains chapitre 8, versets 31 à 39. Je commencerai au verset 28, Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà. La foi qui sauve ne peut être ravie et elle ne peut être détruite. Jude 24 dit aussi, je vous lis, « Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Rappelons-nous aussi de l'épisode avec Pierre dans Luc chapitre 22, verset 32. « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Satan avait réclamé Pierre et tous les disciples. Mais le Seigneur dit « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Et effectivement, Pierre est revenu. Aucun des disciples ne s'est perdu. Nous avons lu ce matin le psaume 121. Et ce psaume 121 parle de quelqu'un qui nous garde. Qui est cette personne qui nous garde? L'Éternel qui nous garde. Il ne sommeille point, il ne dort point. Il garde notre départ, notre arrivée, dès maintenant et à jamais. Le psaume 37, verset 25 dit aussi, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » C'est le psaume 37, verset 25. Donc nous avons vu le portrait de Job, un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, richement béni par la grâce de Dieu. Nous avons vu aussi cet entretien entre Satan et Dieu dans le ciel, un entretien qui va avoir un impact sur la vie de Job. Et regardons maintenant, eh bien, les épreuves de Job, les versets 13 à 19. Alors, pour faire souffrir Job, Satan va utiliser des hommes. Il nous avait parlé de Sabéen, au verset 15. Il est parlé de Chaldéen, au verset 17. Et puis, il va aussi utiliser des catastrophes naturelles. Le feu de Dieu, au verset 16. Il va utiliser aussi un grand vent. Et Job va perdre tout son cheptel. Les bœufs, les ânesses, les brebis, les chameaux. Job va perdre aussi ses enfants. Il va perdre presque tous ses serviteurs. Il va lui rester quatre serviteurs qui vont venir tour à tour, l'un après l'autre, lui apporter de mauvaises nouvelles. Et je vous lis le chapitre, les versets 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Des Chaldéens, formés en trois bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » On peut dire que Job n'a pas eu de répit. Les mauvaises nouvelles se sont succédées. Alors, on peut perdre ses biens, on peut perdre son cheptel, et peut-être qu'à la fin, on dit mes enfants sont sains et saufs. Mais voilà que c'est le couperet qui tombe. Le quatrième serviteur qui vient, qui lui annonce que les enfants sont tous morts dans la maison. Alors, est-ce que Job, comme Job, intègre et droit, se détournant du mal, crédit en Dieu, méritait une telle souffrance? Et rappelons-nous que Dieu lui-même l'a dit, qu'il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu le dit au verset 8. Job, selon notre façon de voir, ne méritait pas de telles épreuves, mais Dieu les a permises. Il a permis que Job subisse ces épreuves. Et nous ne pouvons pas expliquer ces choses, ni les comprendre entièrement. Mais par exemple, dans Lamentations, chapitre 3, versets 37 à 38, nous lisons, où je vous lis, « Que dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ?» Lamentations, chapitre 3, versets 37 à 38. « Que dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ?» Les deux viennent de Dieu et nous ne savons pas qu'est-ce qui incite Dieu, qu'est-ce qui pousse Dieu à faire ça, mais il sait pourquoi, il le sait. Eh bien, Job, cet homme de Dieu, selon son cœur, a été éprouvé. Et nous apprenons comment réagir lorsque l'affliction nous écrase dans les versets 20 et 22. Au travers de la réaction de Job. Eh bien, lisons au verset 20. « Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Voilà, la parole de Dieu insiste au verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et Job nous apprend comment réagir quand nous passons par ces moments. Alors, on voit que la réaction de Job Et empreinte de soumission, il n'a pas levé le poing. Ah, Seigneur, après tout ce que j'ai fait pour toi, voilà ce que tu me donnes. Ah, il n'a pas levé le poing, hein. Il n'a pas éclaté de colère, mais on voit une réaction empreinte de soumission et de piété. Il n'a pas eu non plus de cellule de crise où il parle à un psy, à un homme, pour voilà mes problèmes, voilà ce qui s'est passé. Non. On voit que Job se lève en signe de respect. Il déchire son manteau et se rase la tête en signe de deuil. Le chagrin l'étreint. Il n'est pas insensible, comme tout parent qui perd ses enfants. Il se jette par terre et se prosterne. En fait, Job sait que c'est auprès de Dieu, qu'il va pouvoir trouver le réconfort, même s'il ne reçoit aucune explication. Le réconfort se trouve auprès du Seigneur. La parole de Dieu aussi nous réconforte. Elle est écrite pour notre instruction, pour notre consolation. Lisons la Bible, méditons-la, mémorisons-la. Dieu est bon. Et c'est dans ses bras que Job va se jeter quand il passe par ces moments difficiles. Alors, Job se prosterne et il adore. C'est pas habituel. Nous aurions plutôt tendance à dire, Seigneur, mais pourquoi ? Mais Job, lui, il se lève, déchire son manteau, il se rase la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job dit une première chose. Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. Job nous rappelle que notre vie sur cette terre a une fin. Et nous savons, la Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Donc qu'est-ce que... Par contre, Dieu a pourvu un moyen d'être réconcilié avec lui. Nous sommes rappelés ça dimanche dernier. Avec le Christ est offert sur la croix pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous avons besoin de placer notre confiance dans le sacrifice de Christ, d'être son enfant, parce qu'un jour, notre vie va prendre fin et nous devrons comparaître devant Dieu. Job avait placé sa confiance dans le Seigneur. Il pouvait dire, l'Éternel est mon Rédempteur est vivant. Est-ce que chacun ici peut dire, mon Rédempteur est vivant ? Voilà, ne laissez pas les choses de la vie prennent tout l'espace. Réfléchissez à votre relation avec Dieu. Est-ce que vous êtes vraiment enfant de Dieu ? Et nous avons besoin, de temps en temps, de réfléchir sur la brièveté de la vie ici-bas, mais aussi l'éternité. Qu'est-ce qui se passe après la mort, après la vie terrestre ? Et pourquoi nous devons réfléchir à ces choses ? Pour nous attacher à ce qui dure et pas à ce qui va passer. Des fois, tant de choses que Dieu nous donne par grâce deviennent des idoles. Alors au début, c'est gentil, c'est mignon, mais après ça façonne notre personnalité. Nous y mettons toute notre énergie, tous nos moyens physiques, même financiers, et ça nous prend. Ouais. Et nous oublions que, eh bien, tout nous est prêté. Nous sommes venus nus, et nous repartons nus. Voilà. Donc, les enfants, les serviteurs de Job, tout était prêté, tout a été repris. Et Job le dit, que l'Éternel a repris ce qu'il avait donné. Donc, on n'a pas à s'attacher avec excès aux choses qui sont données, mais à dire, mais Seigneur, c'est toi que je veux, comme mon plus grand trésor, ma plus grande joie, toute mon espérance. Voilà. Donc, nous avons à réfléchir sur la brièveté de la vie et pour nous trouver notre joie et notre espérance dans le Rédempteur. Philippiens chapitre 1, versets 20 à 24. Philippiens chapitre 1, versets 20 à 24. Je commence au verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Voilà, l'apôtre Paul qui était enchaîné à Philippe et qui pouvait dire, eh bien, Christ est ma vie. Voilà. La nudité à notre naissance et à notre mort nous rappelle que nous n'avons rien à porter dans ce monde et que nous n'emporterons rien non plus. tout ce qui nous entoure est fragile et ne dure qu'un temps. Comme Job, comme l'apôtre Paul, nous savons que quels que soient nos avantages, il faudra tout quitter un jour. Serions-nous pour autant prêts à nous prosterner devant Dieu s'il devait nous priver de tout aujourd'hui? Comment Job y est-il parvenu? Eh bien, les trois propositions que Job énonce nous aident, nous donnent la réponse. Comment Job est parvenu à se prosterner devant Dieu alors que Dieu a tout enlevé? Eh bien, il va dire deux choses, trois choses. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job n'avait pas affaire à Satan ou à la mauvaise fortune. Il a affaire à Dieu. Il sait que dans cela, il a affaire à Dieu. Dieu est à l'origine de tout. Satan et d'autres choses secondaires ne sont que des instruments dans la main de Dieu. Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. On voit aussi que Job dit « L'Éternel a donné ». Job ne dit pas « J'ai gagné toutes ces choses par mes efforts ». J'ai gagné toutes ces choses par mes mérites. Job est conscient que même s'il est intègre et droit, les choses lui viennent par la grâce de Dieu. Voilà. Voilà une bonne réflexion. Job considère que tout lui vient de Dieu. Et enfin, Job dit, l'Éternel a ôté. Job voyait la main de Dieu dans tous ceux qu'il avait perdus. Job n'a pas maudit les Chaldéens, il n'a pas maudit les Sabéens, il n'a pas maudit le vent ou le feu. Il savait que c'était Dieu qui contrôlait tous ses paramètres, sinon rien ne serait arrivé. L'Éternel a ôté, ce n'est pas Satan, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et enfin, il dit que le nom de l'Éternel soit béni. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Eh bien, que la parole de Dieu nous aide à avoir cette attitude qui plaît à Dieu, même quand il ôte les choses, et qu'elle nous aide aussi à réfléchir sur la vanité de ce que nous avons. Ça peut être enlevé, frères et sœurs. Attachons-nous à la vraie richesse. Et notre richesse, c'est Dieu lui-même. Voilà. Que la parole de Dieu soit. Voilà. Eh bien, pour terminer...